cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Louis Dandrel.
Bonjour.
Alors Louis Dandrel, vous êtes compositeur, journaliste, musicien, designer sonore, une sorte de multitude de casquettes plus diverses et variées les unes que les autres. Je me demandais d'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas ce que vous faites, quand arrive le fameux sujet de « et vous faites quoi dans la vie ?», qu'est-ce que vous répondez en général ?
Ça dépend à qui je parle. Non, mais en général, je dis que je suis musicien. C'est un terme assez large pour prendre tout ça.
C'est quelque chose que vous assumez ou c'est juste pour vous débarrasser de la question, en fait ?
Non, je l'assume pleinement. Non, c'est être musicien, oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est un métier...
À part entière ?
Ouais.
Je crois qu'il y a un média canadien qui vous a appelé le cousteau sonore. J'ai vu ça quelque part. C'est une étiquette qui
ça m'a échappé,
qui vous intrigue, qui vous
ça m'a échappé, mais alors
dans la mer de son et de musique,
c'est quelque chose. Aller à la pêche au son, non, c'est probablement à ça parce que qui faisait référence, oui. Mais je dois dire que je ne suis plus journaliste depuis quand même extrêmement longtemps.
Assez longtemps, justement. Ouais, ouais. On pourrait, mais ça a été quand même une des premières occupations, écrire sur la musique dans votre long parcours.
Ça m'a fait gagner ma vie pendant un certain temps et dans un beau journal, on se demande même pourquoi il m'avait engagé, c'était Le Monde.
C'était Le Monde tout court.
Ouais.
De 65 à 80, vous avez fait des critiques, notamment parler de la musique. Ouais. C'est une manière de faire de la musique aussi, enfin, quand on a soi-même une formation déjà dans la musique, d'écrire dessus, quel rapport ça a ?
Alors j'y vais lentement parce que écrire sur la musique, c'est pas mon fort. Quoi. J'ai un peu de difficulté à écrire et je dois dire que pendant ces années de journalisme, j'en ai vraiment bavé. Et j'en ai tellement bavé d'ailleurs qu'un jour, j'ai demandé au Monde, il y avait la place de critique de théâtre qui s'était libérée et tout d'un coup, moi, je peux dire jeune morveux, quoi, le mot convient absolument, je me suis présenté. Et on m'a dit, vous allez être critique dramatique. Et d'ailleurs, ça a été absolument dramatique parce que j'étais d'une nullité totale. Et au bout de quand même quelques mois d'exercice, je me suis retiré de ça. Mais écrire sur la musique, c'est extraordinairement compliqué. Et je n'y trouvais pas mon compte, je n'arrivais pas à mettre mes idées en ordre. Et voilà, donc j'ai cessé.
Est-ce que c'était le fait d'être des deux côtés de la barrière ? C'est-à-dire de malaxer de la musique d'un côté après avoir
écrit. Non, c'est-à-dire que si on veut éviter les nombreux clichés qu'on charrie en permanence dans toutes les chroniques, tout d'un coup, il faut être, faut être inventif, faut créer. Et pour ça, faut avoir une énorme sympathie pour ce qu'on entend. Et comme le critique, très souvent, n'est pas gâté, quoi. C'est bien sûr que si on n'allait qu'à des concerts plaisants, ça serait très facile d'écrire. Mais comme beaucoup de concerts ne sont pas du tout plaisants, dire des méchancetés comme ça pour faire le malin, c'est ridicule, quoi. Faut dire pourquoi c'est pas bien. Et là, ça devient vraiment délicat, sans être technique, parce qu'on s'adresse à un grand public, etc. Donc ça devient un exercice extraordinairement compliqué.
Mais ensuite, pas totalement quitté l'univers journalistique, puisque vous êtes un des fondateurs du monde de la musique en 78. Mais il y a eu un épisode un peu autre entre les deux, c'est que vous vous êtes retrouvé à la tête de France Musique. C'est en...
Très beau moment dans ma vie.
En 75, une expérience assez éphémère, mais assez révolutionnaire à l'époque. Vous avez un peu décloisonné tout ça, proposé une approche assez inédite. Racontez-nous un peu, remettez-nous peut-être en situation, comment vous êtes retrouvé là et qu'est-ce que vous aviez à l'esprit en chamboulant complètement ce qu'on appelle la grille de programme à ce moment-là ?
Plusieurs raisons. La première, c'est que à cette époque, il y avait une seule et unique radio en stéréo, c'était France Musique. Donc je ne voyais pas pourquoi il fallait que cette radio confisque un très bel outil de diffusion exclusivement pour la musique classique. Et en gros, on allait de B à B, c'est-à-dire de Bach à Bartok, au-delà un petit peu, mais pas beaucoup. Et voilà, c'était du classique, 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 et c'était un robinet à musique. Donc moi, ce n'était pas ma culture. Ma culture, elle était d'abord beaucoup le jazz, la musique classique simultanément au jazz, et puis bref, toutes les musiques extra-européennes. J'avais eu la chance de rencontrer un ethnomusicologue, et j'avais fait un certificat d'études d'ethnomusicologie à la Sorbonne, tout ça. Donc j'étais un dingue de toutes les musiques du monde. Et je me suis dit, bon, ben, ça va, c'est une chance formidable. On a un très bel outil. Des gens sont venus avec moi, plein, de toutes sortes de radios. D'ailleurs, j'en avais ramassé en Belgique, partout. Et puis, on a monté une équipe et on a travaillé sur les musiques. Et avec une part de musique vivante qui, à l'époque, était quand même assez étonnante, parce qu'il faut dire que cette maison étant riche, elle était riche. C'était une... Comme je disais, on faisait de l'autostop quoi, sur la route, et il y a une super Cadillac qui s'est arrêtée, on monte dedans, on se fera virer à un moment ou à un autre, mais on y va, quoi. Donc ça nous donnait des moyens considérables pour faire de la musique vivante.
Une sorte d'ouverture d'esprit un peu avant-gardiste qui finalement qu'on peut retrouver aujourd'hui où on est dans une sorte de génération et de période où les gens passent effectivement d'un style musical à l'autre, alors qu'à l'époque c'était encore très cloisonné.
Très, très, terriblement cloisonné. Terriblement cloisonné.
Et les sortes de levées de bouclier, je crois que c'est...
Naissance de la musique baroque, tout ça, c'était formidable. Vraiment, c'était une époque où tout poussait simultanément.
Mais qu'est-ce qui a fait que ça a capoté, que les gens n'étaient pas encore prêts à accepter ce décloisonnage ?
Parce qu'il y a eu un phénomène de rejet bien compréhensible, naturellement. On va dire ça en termes assez simplets, c'est que l'auditoire de France Musique est un auditoire qui était assez restreint. Quoi. Quand j'ai pris la chaîne, je vais vous dire, il y avait combien d'auditeurs là-dedans ? Il y avait peut-être 700 000 auditeurs, mais ils étaient propriétaires de leur chaîne. Et on va dire qu'en gros, c'est la classe cultivée, on va dire la bonne bourgeoisie. Et tout d'un coup, vous ramenez le nouveau rock, Stevie Wonder naissant, Anthony Braxton, j'en sais rien, moi, toute la musique. On fait à peine, au bout de 15 jours, on fait une journée d'hommage à Oum Kalsoum, etc. Bon, bref. Tout d'un coup, les gens, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? C'est musique de barbares. On n'y est plus. Mais en même temps, ça ouvre. Et quand on quitte la chaîne 3 ans plus tard, il y a 3,5 millions d'auditeurs sur France Musique.
On vous a montré la direction de la porte ou vous avez lu
non, non, c'est
ça,
moi,
comment,
c'est
ça
moi.
C'est, comment ça s'est passé concrètement?
Oh, ça a été fulgurant, rapide. C'est que un matin, je suis arrivé et j'avais plus le chéquier. C'est-à-dire que vous pouvez faire un bon travail quand vous engagez des musiciens, et les musiciens, on les paie, comme on dit, au cul du camion. Hein. On faisait énormément de musique vivante. Donc, j'arrive un lundi matin, je fais mes commandes de la semaine et tout ça. Puis, on me dit, t'as plus le chéquier. Je dis, je vous donne jusqu'à midi pour me le rendre. Si à midi, je ne l'ai pas, je m'en vais. À midi, je ne l'avais pas, je suis parti.
Et je crois qu'il y a eu Sartre qui s'était même...
Alors, Sartre, c'est vrai, avait été assez virulent. Ben, il faisait partie de ces gens qui écoutaient Lévi-Strauss aussi, d'ailleurs. Enfin, c'est bien, c'est une scène, c'était vraiment intellectuel. Et ils écoutent la musique en faisant autre chose. La musique est un fond sonore. C'est une sorte de parapluie qui les protège du monde environnant, etc. Donc, ça les met à l'aise pour écrire.
Qu'est-ce que, sur l'aspect vraiment musical, sur l'aspect votre pratique, votre approche de la musique, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience en particulier ? C'est-à-dire quand ça s'est terminé, transmettre la musique, transmettre une ouverture, un décloisonnage, une autre approche. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après à titre personnel, plus que le côté effectivement politique, médiatique, on pourrait dire, de ça ?
Enfin, moi, mon expérience personnelle, elle a été double. D'abord, c'était de rentrer dans la musique vraiment en vie, quoi, la musique qui est en train de se fabriquer, celle qu'on connaît pas encore. Que ça aille de la musique, on va dire, savante contemporaine, à toutes ces musiques émergentes. Aujourd'hui, elles sont devenues quasiment banales. La plupart, d'ailleurs, même sont oubliées. Mais c'était une expérience d'oreille. absolument phénoménal, quoi, de se trouver au carrefour de toutes les musiques, avoir la possibilité de prendre son téléphone en disant il y a un concert formidable à Tokyo, je voudrais que vous me le transmettiez et tout ça. Et 2 heures plus tard, on installait des lignes stéréo et on avait le concert qui était dans le tuyau. C'est une expérience qui est vraiment fabuleuse. Donc on est véritablement dans la vie à une échelle planétaire. On a, c'est un pouvoir qui est phénoménal, quoi. Si vous êtes à l'affût, on avait des correspondants partout dans le monde. Il faut dire, là, il est en train de se passer un événement et tout. Il y a Anthony Braxton qui joue à Greenwich. Toc, le soir, boum, ça passe dans le trou. Et bon, ça, c'était vraiment une très belle expérience. Donc, ça élargit le champ de la connaissance à la fois, on va dire, de type bêtement culturel. C'est intéressant, mais la formation de l'oreille, c'est complètement bouleversant, quoi. Cette écoute à l'échelle du monde, elle a, moi, pour moi, fortement changé ma vie. Je faisais beaucoup déjà de prises de son depuis que j'étais gamin. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, j'ai acheté mon premier magnéto. En Allemagne, je passais en fraude et tout, parce que ça coûtait cher à l'époque, et là, on les avait à pas cher. Mais j'étais resté
Vous captiez quoi à ce moment-là?
J'étais un peu franchouillard, quoi. Je captais toujours les villes parce que la campagne, c'était pas mon fort. Et parce que j'étais né dans la campagne et tellement dans la campagne que la ville, forcément, m'a intéressé parce que je la connaissais pas. Mais je faisais des petits enregistrements, des trucs comme ça. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, là, ça m'a gratté de partout. Et j'ai commencé vraiment à faire des enregistrements dans le monde entier, partout.
J'allais vous demander, justement, là, vous me tendez une bonne perche. Je voulais aborder le sujet un petit peu, peut-être un peu plus tard. Mais ce rapport, justement, que vous avez avec la matière sonore, que ce soit des notes, de la musique, du bruit. Bon, citez une anecdote donc, de votre enfance, vous avez commencé à ce moment. D'où ça vous est venu? À quel moment votre oreille, vous avez senti que votre oreille ou la façon dont vous perceviez les sons vous faisait ressentir des choses, vous faisait agir peut-être différemment de vos camarades de classe ou je ne sais pas,
c'est
vos
pas une amis, décision. C'est pas une décision personnelle, c'est un fait.
C'est dans votre ADN?
Non, je suis né juste avant la guerre. Et il se trouve que les bombardements, on était dessous. Les Allemands ont occupé la petite ville dans laquelle j'étais, nous ont foutu dehors de la maison. Ensuite, on a pu revenir, on a partagé la maison avec les Allemands et tout ça. Donc là, il y a eu un environnement sonore qui, dans la tête d'un enfant de 5 ans, c'est inoubliable.
Hein. Est-ce que le son prend le pas sur l'image, par exemple, sur le visuel?
Mais c'est sans comparaison. Une escadrille de bombardiers qui arrive. Et quand vous commencez à entendre cette espèce de rumeur très lointaine dans le bas médium grave et tout ça, et ça arrive et ça vous passe au-dessus de la tête, et que 3 minutes plus tard les bombes commencent à tomber, que le sol fait blablabla, et que c'est un vrai bruit de fusée à l'envers, les bombes qui tombent et tout ça, c'est un spectacle sonore qui est absolument prodigieux. Enfin, moi j'étais dans un état d'exaltation quasi funeste, parce qu'il fallait me courir après, je me barrais pour aller écouter ça dehors, et il fallait rester dans la tranchée, dans le truc et tout. Mais c'est un spectacle hallucinant, hallucinant. On ne peut pas faire plus grandiose et plus terrorisant réellement, quoi. Mais c'est la terreur sacrée, quoi. C'est plus... comment dire, c'est pas du domaine domesticable.
Thank you.
Est-ce que ça veut dire qu'à cette époque-là, donc à ce moment-là, il y avait une cloison pour vous entre ce type de bruit que vous venez de décrire et de la musique, ce qui est considéré comme de la musique? Est-ce que pour vous, tout était matière sonore ou il y avait vraiment des catégories?
Ça faisait tout un. J'étais dans une famille qui était une famille nombreuse. Et il y avait des individus un peu bizarres chez moi, dont un frère aîné, que j'aime beaucoup, et qui faisait beaucoup de piano et du violon. Et chaque fois qu'il y avait un bombardement, lui, sa façon de s'exorciser, il montait au piano et il jouait. Et il jouait exclusivement du Mozart. Donc il jouait du Mozart. C'était comme ça. Et donc moi, Mozart plus bombardement, ça fait qu'un. C'est des souvenirs. Mais auditivement, il y a une deuxième expérience que vous faites, c'est que quand on vous force quand même à rester dans un abri obscur, et ça, que vous y restez assez longtemps, ben le sens qui fonctionne, parce qu'il n'y a pas de lumière et tout ça, c'est l'oreille. Donc vous faites travailler très tôt votre oreille. Et puis comme en plus de ça, on disait « attention, les murs ont des oreilles », puis là je ne comprenais pas bien cette phrase-là, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait parce que les Allemands pouvaient l'entendre, d'autant mieux qu'ils habitaient l'autre moitié de notre maison. Voilà, donc si les murs ont des oreilles, moi aussi, enfin vous voyez l'espèce de bazar que ça fait, quoi.
Mais la musique, celle qu'on a, vraiment la musique à ce moment-là, comment vous êtes entré en musique, comment on rentre en religion, qu'est-ce que c'était la musique que vous écoutiez? C'était ce que passait les postes de radio, c'était votre frère qui jouait du Mozart?
Bah puis moi aussi avec lui, on a fait du 4-mains, à fond, quoi. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé le piano qui me passionnait, c'était...
Piano, qu'est-ce qui vous a attiré?
Parce qu'il y avait un piano. Le piano était là. On n'était pas dans une famille riche. Hein, voilà, il y a un piano qui a été posé là par hasard par quelqu'un qui partait en exode. Et puis le piano, il est resté. Puis je me suis assis sur le tabouret. Puis je ne l'ai plus jamais quitté. Quoi. Je trouvais ça formidable et bien. Ça me plaisait. Et donc, comme j'étais d'une constitution chétive et que j'en jouais pour qu'on me foute la paix, je n'allais jamais en récréation, le sport, jamais. Et pendant ce temps-là, je disais, moi, de toute façon, je fais du piano.
Et après-guerre, vous êtes resté à Mozart, vous êtes passé à écouter du jazz
Bien sûr, bien sûr. La nuit, parce que mon père, le jazz, il n'aimait pas. Comme il disait, le jazz, il détestait ça. Et puis, oui, quand j'étais un peu adolescent avancé, je me suis fait une petite formation de jazz et j'ai joué tous les standards. Quoi. Enfin...
Ça restait juste un hobby, c'était une passion, vous vouliez en faire une carrière?
Je voulais faire le conservatoire. Quand j'ai dit ça à mon papa, il m'a foutu un bon coup de pied dans le derrière, mais un vrai, solide, quoi, comme on savait faire à la campagne. Hein, c'était pas des trucs pour rigoler. Et puis, il m'a dit, il n'en est pas question, passe ton bac d'abord. Donc, j'ai passé mon bac. Le soir de mon bac, en poche, j'ai fait ma valise, me suis mis au bord de la route, j'ai fait de l'autostop et hop, et je suis parti. Et après, j'ai mené ma vie.
Quelle a été l'étape suivante après vos premières prises de son urbaines, comme vous disiez, vous avez décrit tout à l'heure par rapport à...
J'ai toujours enregistré, chaque fois que je me déplaçais, j'avais toujours mon magnéto dans le sac et tout. Et puis à partir d'un certain moment, je ne peux pas trop vous dater ça, mais je me suis quand même mis à faire, comme un photographe, quoi, à travailler vraiment sur certaines villes. Il y a des villes qui m'ont vraiment fasciné. Et donc j'ai travaillé sur, je ne peux pas vous dire, ça a été ville du Japon, Buenos Aires, des villes comme ça. Quoi.
Le fait que ça soit assez inédit, c'était aussi assez intriguant. Il n'y avait pas 15 000 personnes comme vous qui faisaient ce genre de chasseur de son, pour prendre un cliché un petit peu. Vous n'étiez pas dans une forme d'expression, je ne sais pas si...
D'art, je vais être faussement modeste, mais c'était vraiment à usage privé, je ne m'en suis jamais servi.
Mais est-ce que ça veut dire que quand vous rentrez,
vous écoutiez ça
en permanence vous...
Non, non, non. Une fois que je l'avais fait, c'était un plaisir énorme, quoi. Parce que quand on fait de la prise de son, enfin, c'est assez
ça
complexe.
Il y a une obsession un peu quand même aussi par rapport à ça. Est-ce que il y a le fait que ça soit un plaisir aussi comme ça, aussi personnel, est-ce que vous le partagiez? Est-ce que vous aviez des amis? Vous disiez, tiens, assieds-toi, je vais te faire écouter telle rue de Buenos Aires.
Comment dire? Une fois que c'était fait, c'était l'expérience de la prise de son, à vrai dire, qui me plaît le plus. C'est d'abord pendant plusieurs jours, vous marchez à travers une ville, tout ça, vous commencez à repérer des endroits qui vous plaisent, mais qui vous plaisent à l'oreille. C'est-à-dire qu'en gros, les yeux se transforment en oreilles. Oui, je ne peux pas dire mieux. On voit avec ses oreilles. Donc la vue, elle compte plus beaucoup jusqu'à ce que tout d'un coup, vous êtes dans un endroit et là, vous vous fondez dans le lieu et vous dites, là, il faut que je fasse des trucs. On sent que cet endroit est riche de sources sonores, de configurations acoustiques qui font que ça va sonner et qu'il y a tout un monde qui est en train de se créer. Et là, pendant 3-4 jours, vous revenez sur cet endroit-là et tout. Et naturellement, la vie qui vient, les gens qui passent, les bagnoles, les trucs comme ça, vous servent et se mettent tout d'un coup à faire la musique du lieu. Et vous l'enregistrez quoi, comme une musique, avec la même attention, avec le même oubli de soi. C'est-à-dire, ça ne peut pas être un acte volontariste. On se fond dans le milieu un peu. Vous mettez un cachet dans la flotte, il fait pchit, il est dissous. Et là, c'est à ce moment-là que vous commencez à faire des trucs qui sont intéressants.
Est-ce que vous étiez intéressé ou intrigué par des gens qui essayaient de créer avec une matière sonore un peu atypique? Je pense notamment par exemple à Jacques Tati, ce qu'il a fait alors au cinéma, on n'est pas sur la musique,
mais
son travail là-dessus justement par rapport au son qui est assez unique, qui à l'époque n'avait aucun équivalent. Et je pense d'ailleurs depuis, après il y a peut-être eu quelques personnes qui ont un peu pioché, qui ont déclindé des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait un rapport à la matière sonore.
Et il y a eu un monde complètement cohérent entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et c'est pas seulement pour faire du gag. Il y a une intention. Il se trouve que moi, après, j'ai assez bien connu sa fille, Sophie, et elle est venue faire des trucs, des mix chez nous et tout. Donc j'ai pu vraiment rentrer à travers elle dans le travail de son père. Et c'est vraiment de la composition globale. Œil, oreille, ça marche ensemble. Et on voit bien quoi ça donne quand on pénètre dans des bâtiments. Tout fait marcher, la porte qui fait marcher le hall, tout, les pas, enfin, il y a tout, quoi.
Oui, et puis cette façon aussi de remplacer même le langage humain.
Et bien entendu, le son parle à la place
des acteurs. À la place des acteurs, ouais. On n'a plus besoin d'entendre des phrases et des mots. Alors donc, on va reprendre la petite machine à traverser le temps. Donc, après cette expérience France Musique, vous avez finalement, vous êtes quand même resté dans ce que vous aviez décrit, quelque chose comme un univers qui, où finalement, la critique musicale dans lequel vous n'étiez pas totalement à l'aise, puisque vous êtes un des fondateurs du monde de la musique en 77-78, je crois. Comment cette expérience est arrivée? Est-ce que c'était une envie? C'était pour remplacer quelque chose? C'était pour...
Non, en quittant France Musique, il y a deux trucs que j'ai fait. Le premier truc, je me suis dit, on va faire une radio, on va continuer à faire une radio. Puis il se trouve que Jean-Louis Servan-Schreiber me dit... j'ai envie de faire une radio. Qu'est-ce que vous voulez faire comme radio? Je vais faire une radio de musique. Bon, et c'est devenu Radio Classique. Et donc, bon, ça a tourné court relativement vite, ce projet-là. Et après, j'ai dit, alors on va faire un journal. Et avec un copain, Jean-Pierre Lantin. Malheureusement, il a eu bêtise de mourir, celui-là, beaucoup trop tôt. On s'est retrouvé dans un bistrot. Lui, il connaissait à fond toute la partie chanson, rock, tout ça. Lui, c'était son domaine. Moi, c'était l'autre, world music et musique classique. Et donc, je me souviens, on a pris une nappe dans un bistrot. On a commencé à couper la nappe et puis on s'est fait notre journal et tout. Mais j'ai dit, bon, ben, on le fait. Et voilà, donc je me suis mis à chercher des gens pour le faire. Je l'ai fait au début avec Le Monde et Télérama. Puis après, ils ont lâché le truc. J'ai remonté une société. Et puis après, une fois que ça a été fait, je suis parti.
Mais là aussi, il y a eu encore, pareil, le côté un peu décloisonné, où on parlait aussi bien d'Hendrix que de Debussy. Ouais,
c'était pour faire toutes les musiques.
Voilà, à l'époque, c'était aussi assez avant-gardiste, dans la mesure où ça surprenait. C'est-à-dire que la personne qui se disait classique, se demandait pourquoi j'aurais du Hendrix ou du jazz. Et
ça a été le problème. Hein, c'est que, voilà, on avait du mal. Au début, on a vendu très bien. Et puis à un moment donné, ça s'est un peu tassé. Et voilà, donc moi, je suis assez fort pour perdre de l'argent, mais en gagner, c'est pas... Il ne faut pas me demander, quoi. Mais l'idée, elle était très bonne, quoi. C'était vachement bien.
Il n'y a pas une frustration, justement, comme ça, d'avoir un concept dans lequel on croit, même pas par rapport à son ego, juste à titre personnel, de se dire, voilà, il y a cette idée-là. À première vue, je ne suis pas le seul à la partager avec moi-même. Il y a d'autres personnes qui peuvent être touchées par ça. Est-ce que, finalement, à chaque fois, vous êtes arrivé un peu trop tôt? C'est comme, finalement, maintenant, le mot de sound designer, designer sonore, qui est un peu sur toutes les bouches. Vous avez aussi un côté précurseur par rapport à ça. Donc, si on revient sur cette expérience de presse, qu'est-ce qui a fait que les gens n'étaient pas prêts, finalement, pour ça? C'était trop tôt?
C'est difficile à expliquer parce que je ne suis pas sociologue, mais je pense qu'on a quand même des comment, des groupements humains qui se font autour d'une polarisation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des attractions qui se font. La musique classique a autour d'elle, génère des groupes qui se reconnaissent, qui vont au concert, qui aiment la même musique, qui en parlent. C'est pareil dans la chanson, mais même un certain type de chanson. Ouais. Bon, des quoi, chose. Si vous voulez faire de la transversalité, ça veut dire que vous avez des ambitions de se dire on va prendre de la distance et on essaie d'acquérir une culture générale. Eh ben, on n'aime pas trop, quoi. Parce que quand on est dans ces domaines du sensible, on aime s'y engager, et on aime s'y engager vraiment, enfin, comment dire, un peu avec une exclusivité. Si on comparait ça à l'amour, c'est comme si tout d'un coup vous disiez je vais avoir 10 femmes.
C'est la polygamie.
Un harem, c'est une sorte de polygamie musicale ou culturelle, tout ça. C'est pas bien vu. Ça marche pas.
Polygame musical. Et donc c'est un peu, je crois, après cette expérience que vous avez ouvert votre studio,
mais...
où là vous reveniez finalement à quelque chose, finalement votre petite prise de son quand vous aviez
pratiqué
tout jeune enfant, c'est un peu la même chose, c'était vous mettiez de manière un petit peu plus institutionnalisée, un petit peu plus professionnelle, cette première attirance, ce premier amour. Pourquoi il y a eu cette envie tout soudainement? Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, tout simplement même?
Alors, je pourrais répondre bêtement parce que je faisais autre chose, mais pourquoi? Parce que je pense qu'il faut avoir une certaine expérience d'écoute pour rentrer dans le design sonore. Contrairement à ce qu'on croit, on se dit, bon, donner un son à un objet, c'est pas difficile, quoi. On va faire poète, machin et tout ça, c'est toujours possible. Et je pense que c'est sans doute le domaine le plus délicat parce qu'il mêle tous les sens. Il y a une plurisensorialité, enfin je ne sais pas si le mot existe, mais ça met en jeu aussi bien le toucher que la vue, que par exemple, j'ai eu à travailler sur des parfums et tout ça. Donc c'est extrêmement complexe. En réalité, c'est très complexe le design. Alors il y a toute une partie du design qui est en gros du design d'effets graphiques. Qui là, c'est lui d'ailleurs qui a ouvert la voie au design. Hein. Il y a du design 3D. Par exemple, la chaise. Tout designer a fait une chaise dans sa vie. Et donc là, il montre la maîtrise qu'il a des proportions dans l'espace. Quand vous faites du design sonore, vous avez exactement la même problématique. Dans le design sonore, on a les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que vous avez à la fois le matériau sonore, qui est relié à un objet concret, et à l'espace que vous allez générer, qui va être non seulement l'espace de l'objet lui-même, tridimensionnel, si vous travaillez sur des objets tridimensionnels, prenons une automobile par exemple, mais vous avez aussi l'espace sonore. Et vous allez avoir, puisque je viens de citer l'automobile, le déplacement de l'objet dans l'espace. Donc il y a un nombre de facteurs à faire coïncider. Et si on veut réellement avoir une esthétique de design sonore qui soit forte, qui soit significative, eh ben, y a un sacré nombre de connaissances qu'il faut mettre en relation. Et moi, tout seul, je n'ai pas pu faire du design.
C'est ce que je vais vous demander. Voilà.
Je n'ai pas pu. Mmh. Et quand j'ai commencé, eh ben, je me suis dit, donc, il faut qu'il y ait un type qui s'occupe de l'acoustique. Il nous faut un acousticien dans l'équipe. Il faut un ingénieur du son qui soit, mais vraiment celui qui connaît le matériau enregistré, parce que souvent, on utilise bien évidemment des moyens de transmission qui sont électroacoustiques. Il nous faut un ingénieur du son de haut niveau. Il y a un compositeur. Déjà, au moins, il y a un trio de basse qui va pouvoir produire quelque chose. On ne peut pas faire du design sonore de chic, quoi. Enfin, du moins, moi, c'est mon avis.
Thank you.
notamment les premiers logos sonores pour la SNCF. Vos premiers clients, c'était, vous avez travaillé après avec un nombre de marques et d'interlocuteurs plus divers et variés les uns que les autres, que ce soit l'Institut du Monde Arabe ou Louis Vuitton, ou j'en passe, et des meilleurs. Vos premiers, les premières personnes à venir frapper à votre porte, j'imagine à une période où peut-être le design sonore n'était peut-être pas encore ce qu'il est aujourd'hui, il y avait peut-être une partie encore un peu balbutiante, je ne sais pas.
Quels étaient les types
d'interlocuteurs qui venaient vous voir ?
Alors, j'avais créé, moi, deux sociétés. À vrai dire, il y avait un petit laboratoire d'études. Parce que comme on n'avait pas de technique à mettre en œuvre immédiatement, il fallait avoir une certaine réflexion à la fois sur les méthodes, sur les buts, etc. Donc il fallait faire de la recherche, mais de la recherche appliquée. Puisque ensuite j'ai travaillé avec l'IRCAM, pas de la recherche fondamentale. Mmh. C'était véritablement de la recherche appliquée. Et à côté, je mettais une société et j'avais passé un accord avec l'État en disant, voilà, vous subventionnez à 50% la partie études. Et moi, avec la société, je mets les autres 50. Donc, on fait du 50-50 pour faire ces recherches fondamentales sur le design sonore. Et les débouchés que j'avais, les deux lignes d'études, c'était le son en relation avec l'architecture et le son en relation avec le design, l'objet. Donc, c'était à la fois design et architecture. Et les premiers clients que j'ai eus, je pensais que ça allait être les gens du design. Les machines à laver, tout ça, c'était tellement dégueulasse. Je me suis dit, ils vont se précipiter, ça va être formidable. Les premiers téléphones, et ça. Nada, ça ne marchait pas avec eux. En revanche, les architectes, immédiatement. Et le premier avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est Jean-Marie Dutilleul, qui est l'architecte en chef de l'ensemble de la SNCF. Et à cette époque, il lançait son programme de construction des nouvelles gares TGV. Et il voulait en faire des lieux d'expérimentation. Et donc, il nous a accueillis à bras ouverts et... Et là, on a fait des choses, mais qui sont même pas descriptibles. C'est absolument formidable, quoi. Avec un raffinement des matériaux qu'on composait, c'était de la haute couture d'acoustique. Donc, on pouvait traiter la lumière, en faire une esthétique acoustique comme on fait avec la lumière. C'est-à-dire des passages où, tout d'un coup, vous êtes assez feutré, là, plus brillant, etc. Donc, on a fait des grandes gares. Celles que j'aime, que je trouve qui sont des beaux volumes acoustiques, c'est celle de Roissy, la gare interconnexion de Roissy, le réseau Éole, les deux gares Magenta. Et là, à vrai dire, toutes les folies qu'on pouvait apporter, il les étudiait bien et tout ça, il disait « Ok, on le fait ».
Parce que dans cette période-là, justement, vous avez cité deux exemples, mais il y avait vraiment des choses particulières que vous metteriez au-dessus du lot, qui sont des sortes d'accomplissements dont vous êtes un peu fier par rapport à ça.
Oh, c'est Magenta du réseau Éole. Au plafond, on a le plafond voûté, on a fait mettre du capiton. Vous avez le capiton, vous avez un canapé, un Chesterfield avec les petits trucs, là, les petits trous comme ça. Quand on dit on va mettre du capiton, on va mettre du capiton. Oui, du capiton. On ne fait pas mieux vu les formes de la gare et tout, ça va être superbe. D'accord, ok, on met du capiton. Là, c'était une équipe formidable avec des gens d'une haute, haute compétence et à la fois architecturale et dans d'autres domaines.
Est-ce que vous aviez des confrères aux quatre coins du monde avec lesquels vous communiquiez, notamment au début, sur ce côté un peu neuf ?
J'ai pas trouvé.
Est-ce que les gens sont venus vous voir à l'autre bout du monde ? Est-ce que vous étiez vraiment une sorte d'unité un peu unique et totalement avant-gardiste ?
C'est assez difficile de travailler avec les architectes, hein, parce que la règle, c'est quand même ce qu'on voit. L'œuvre architecturale, elle est reproduite dans des revues papier glacé. En général, on évite même de faire des photos avec des gens qui habitent les lieux. Et c'est vraiment... Donc, ça veut dire bien une chose, c'est que quand les gens viennent habiter un lieu, ils le polluent pour un architecte. Ils vont l'abîmer. La relation entre le son et l'architecture, c'est vraiment... c'est costaud, hein. C'est extrêmement difficile de faire comprendre à un architecte les conséquences de son dessin. Alors, il y a des architectes avec qui on a bien travaillé, Christian de Panzampart, notamment, quand on avait travaillé sur la rue musicale à la Cité de la Musique. Mais ils ne sont pas nombreux, hein. Ils ne sont pas nombreux.
Comment vous voyez justement comment tout ça a évolué jusqu'à aujourd'hui ?
Est-ce que... Ça n'évolue pas.
Ça n'évolue pas.
Non mais clairement dit, hein, le son n'est pas pris en compte. Alors on fait de la correction acoustique. Ça veut dire, en gros, on fait du brutaliste, on chasse le bruit. Mais avoir une véritable esthétique acoustique, ça on ne sait pas. Alors que dans le domaine de la lumière, on fait appel à des artistes lumière, mais penser qu'il puisse y avoir des artistes dans le domaine du son...
Comment vous l'expliquez dans une période où on est bombardé
est sourd.
De sons
Mais parce que c'est ça, tout le monde est sourd, les architectes en premier. Ils n'ont pas de formation, aucune formation dans le domaine du son. Paysagistes, c'est pareil, ils n'ont aucune formation.
En paysagiste, justement, vous avez fait aussi des jardins sonores, jardin des voix, Osaka, ce genre de choses. J'ai un jardin des sons à Hong Kong. Comment c'est arrivé aussi ce genre de...
On provoquait. Ouais. Ça vient jamais tout seul. Faut aller le chercher. L'histoire d'Hong Kong, c'est par relation. Alors, faut dire que le monde, par exemple, pour moi, a été un foyer merveilleux parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. Et quand j'ai quitté le journal, plus France Musique, j'avais un réseau.
Mon carnet d'adresses.
Voilà, on a son carnet d'adresses. Donc, on peut appeler quelqu'un qu'on a rencontré quelque part. Et oui, je voudrais rencontrer. J'ai envie d'aller travailler sur Hong Kong. Et puis voilà, vous rencontrez. Puis. Donc là, ça correspondait aussi à une demande d'aménagement urbain en face de l'immeuble, d'un très bel immeuble construit par Rogers, la banque de Hong Kong et Shanghai. Pardon, Norman Foster. Excusez-moi, je suis en train de faire une sottise.
Un grand bâtiment de verre et de métal.
C'est celui de Norman Foster. Et donc au pied, il y avait un petit square qui était là, très fréquenté parce qu'il y a une station de métro. Et on s'est dit, bon, on va aller faire un travail là. Et ça valait vraiment le coup, parce que là, on a pu mettre à l'épreuve déjà des techniques d'acoustique urbaine qui sont très intéressantes. Je vais en citer une pour l'anecdote, parce que c'est vraiment intéressant. Quand vous entendez un son qui vous plaît, qui stimule votre écoute, parce que c'est intéressant, vous avez une conversation avec quelqu'un, vous êtes intéressé par ce qu'il vous dit. Si cette conversation a lieu dans un milieu très perturbé, vous êtes dans une terrasse de café, il y a un bruit énorme et tout ça, vous l'entendez parfaitement bien. Et on appelle ça l'effet cocktail party, c'est-à-dire que l'oreille, naturellement, filtre les sons qui l'embêtent et elle arrive à détourer, en quelque sorte, la voix de l'autre. Si à la place vous mettez un micro, c'est le boxon, vous n'entendez pas un mot de ce que dit l'autre. C'est comme ça. Donc bien connu en acoustique, cet effet cocktail party. Eh bien, je l'ai utilisé en ville en mettant tout autour de ce jardin un petit tube avec des HP tous les mètres qui étaient pris dedans. Et je faisais tourner un son en mouvement qui faisait tout le tour du truc. Et ces sons qu'on envoyait dans le tuyau, ce sont des figures de l'instrument, d'un instrument, le luth chinois, ça fait partie du vocabulaire de la musique traditionnelle chinoise, la musique classique chinoise. Donc on lançait ces petites figures musicales dans le tuyau, tout ça, et c'était absolument incroyable, quoi. Ça c'est tout d'un coup, je peux vous dire, c'est comme dans la nuit, dans il y a un éclairage que vous, là, saturé, tout ça, s'il y a un petit mégot qui se déplace, vous le voyez, là, ce petit son-là, pop, on le voyait, et ça produisait un effet qui était absolument formidable. Donc on avait zoné ça, et à l'intérieur, ça me permettait de pouvoir travailler. J'avais déjà isolé mon petit champ acoustique, un espace acoustique, et quand on rentrait dedans, on rentrait par des portes, l'une consacrée aux insectes, l'autre aux oiseaux, puisque ce sont de grandes manies des Chinois qui élèvent des oiseaux et qui élèvent des grillons, qui font chanter, ils font des concours et tout ça. Et donc voilà, ça a eu un bon succès, ça marchait très bien.
Si on revient à ce que vous expliquiez tout à l'heure, au début finalement vous expliquiez que toutes ces prises de son c'était vraiment quelque chose de personnel, il n'y avait pas vraiment de notion de partage ou d'échange, c'était pas pour épater vos amis ou dire regardez j'enregistre ceci, cela, puis vous êtes ensuite arrivé dans un système où finalement il y a eu beaucoup d'échanges, vous avez parlé tout à l'heure du besoin de travailler avec même certaines personnes, etc. Est-ce que au fond, finalement, quand vous faites tout ça, c'est quand même malgré tout une conversation avec vous-même, où il y a vraiment la volonté d'échanger vers l'extérieur.
Les deux. Les deux. Mais il se trouve qu'il y a toujours des circonstances qui font qu'à un moment donné, la possibilité d'échanger se arrive. Par exemple, pour la première fois que j'ai fait écouter les sons que j'avais enregistrés dans les villes, c'était à Rio de Janeiro. C'était en 92. Il y avait cette première conférence sur les villes, conférence internationale. Et dans le programme, il n'y avait pas la moindre commission qui parlait du problème sonore des villes. L'urbanisme sonore n'existait pas pour eux. Là, la moutarde m'est montée et je me suis dit, on fait une expo sur le son des villes. Et donc je m'étais associé avec Angoulême, la bande dessinée, tout ça. Il m'avait fait des décors et j'avais fait Fenêtre sur ville. Donc on arrivait avec les casques, c'était les premiers casques infrarouges, vous savez, où vous approchiez d'une fenêtre, par exemple, qui donnait sur une rue de Tokyo. Et crac, vous aviez le son de... Donc j'avais fait 5-6 villes comme ça dans l'exposition à Rio de Janeiro. Et à partir de là, on a fait un disque et tout ça. Puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler encore plus là-dessus.
Comment vous expliquez justement qu'aujourd'hui on soit complètement bombardé? Vous avez dit tout à l'heure, les gens sont complètement, enfin, les gens deviennent sourds. Et c'est vrai, il y a une, certains vont jusqu'à parler d'agression sonore. On va dans un, maintenant quasiment 80% des restaurants, il faut qu'il y ait de la musique en fond sonore. Il y a tout le temps, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait cette sorte de paysage, j'allais dire, de, comme on disait avant, la musique d'ascenseur, où ça a commencé finalement par les ascenseurs. Le seul endroit où, pourquoi tout à coup, dans un ascenseur, il fallait qu'il y ait de la musique? On prend juste un ascenseur pour monter ou pour descendre. Maintenant, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait ça en permanence. D'où ça vient? Comment vous expliquez? Et comment vous pensez que ça impacte notre société et notre approche même de la musique et du son en général?
Il est certain que l'excès de son, forcément...
Trop de son tue le son?
C'est pas seulement le son, c'est plutôt l'oreille qui quand même qui s'affaiblit considérablement. Par des sons de grande proximité, avec tout ce qui... Enfin, ça va du téléphone au petit casque portatif et tout ça, et puis cette musique ambiante qu'on trouve partout a des puissances qui sont de plus en plus fortes, faut bien le dire. Moi, aller au cinéma maintenant est devenu une chose impossible pour moi sans boule, hein. Je peux pas, là. Les niveaux de puissance dans les salles, c'est infernal. Ça a pris je sais pas combien de dB, mais c'est monstrueux. Donc on est en... Alors maintenant, sociologiquement, vous analysez ça, c'est pas trop mon métier, là je vais pas trop savoir pourquoi.
Hein. Et vous en tant que...
Mais il y a un phénomène d'entraînement, on sait que plus, quoi, c'est comme ça. Il y a de plus en plus de bagnoles, il y a de plus en plus de bruit, il y a de plus en plus de gens qui ont peur de la solitude, qui, je sais pas quoi, moi, ils bouchent les trous, quoi.
Et le chasseur de son que vous êtes, justement, est-ce que ça veut dire que, dans cette évolution de la société, vous-même, votre travail évolue lui aussi, doit faire avec? Avec cette...
Y a des villes que je fréquente plus.
Carrément.
Aussi radical que ça, c'est que, par exemple, j'avais jamais enregistré La Campagne et la Nature. Alors vous allez me dire, ça va de pair avec le vieillissement, naturellement. On commence à se rapprocher de la Terre, donc on va profiter de ce qu'elle vous dit. Avant de l'écouter de trop près. Donc, je me rends compte que les villes m'intéressent de moins en moins. Sauf certaines villes. Donc, j'ai commencé à aller enregistrer un peu en périphérie de ville. Et puis, maintenant, je me retrouve comme un couillon au milieu des maïs. me coucher dedans et enregistrer le vent qui est en train de frissonner sur la tête des maïs. et à prendre mon pied. Donc, c'est un peu bizarre. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est comme ça.
Mais alors, malgré tout, donc, là, je crois que vous travaillez avec Laborie, avec la... Fondation Laborie, sur il va y avoir une publication de kits sonores d'enregistrement qui vont de la sirène des pompiers de San Francisco à un dîner en famille en Belgique. Ce genre de petites, je sais pas, on appelle ça des vignettes, des prises de son, je sais pas comment vous voyez ça. Parlez-nous un peu de ce travail.
Alors c'est bien évidemment l'accumulation de quantité d'années de prise de son. On a essayé de sélectionner ce qui pouvait être le plus porteur d'informations. Donc c'est un lien, pour moi, à travers, quand on fait une écoute même d'un petit sujet. C'est plus long que les sons dans cette sonothèque, c'est pas des sons courts, hein, ils racontent toujours une petite histoire. Donc en même temps, c'est pour essayer de créer un lien momentané avec des gens qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais, avec des ambiances, des villes et tout ça. Et donc on fait travailler l'imaginaire. La puissance énorme de l'oreille, c'est que obligatoirement, elle déclenche... c'est narratif, l'oreille. Elle déclenche des histoires. La vue, elle est réelle. La vue, elle vous donne du vrai. Puisque je ferme les yeux, je rouvre, je vois la même chose. Mais les oreilles, c'est pas vrai. Je les ferme pas d'abord. Et en plus de ça, seconde après seconde, l'état de l'espace qui vous environne, sonore, est différent. Ça n'arrête pas de bouger. Donc ça raconte des histoires, c'est narratif, c'est dans le temps. C'est comme quand je dors, que je fais un rêve, ça marche, ça avance, ça progresse, ça se transforme. Donc c'est un monde qui est en perpétuelle transformation. Et qui donne plein d'informations à la fois qui peuvent être dramatiques, poétiques, oniriques, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est plutôt cette relation-là qui m'intéresse. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'entends les sons.
Donc vous les avez finalement pour cette collection, vous les avez assemblés par... vous avez parlé de cette narration, c'est finalement son quoi ? Ce sont des petits films, des petites histoires, des petits romans ?
Oui, des microfilms. C'est comme le bon photographe, quand vous allez regarder, on va aller à Arles, là, j'espère, on rencontre photographique d'Arles, quand vous voyez des bonnes expositions, une bonne photo, tout d'un coup, elle vous fait rentrer dans un espace visuel, et c'est justement là, c'est plus de la vue comme ça banale, quoi. Elle vous emmène dans un espace, et tout ça, et elle vous donne en retour une sorte d'obligation d'interpréter ce que vous regardez. Bon, le son, lui, c'est obligatoirement une interprétation. Vous êtes obligé.
Le son a une origine ? Est-ce qu'il y a une globalisation finalement des sons ? Est-ce qu'il y a des langages sonores différents d'un continent à l'autre ? Comment ça se passe ?
Il y a des comportements différents. Une année, je m'étais amusé à faire les klaxons de voitures. Comment on klaxonne dans divers pays et tout ça ? J'en ai fait pas mal. Et c'était évident, quoi. L'impatience française, c'était net. Maintenant, on ne klaxonne plus. C'est fini. On a beaucoup perdu.
On klaxonnait mieux avant.
Non, mais c'était sympathique. Enfin, c'était toujours deux coups. C'était papap. Et en même temps, il y avait un gros mot. Quoi. Dans la façon de klaxonner, c'était... je ne vais pas dire ce que c'était, mais il y avait un gros mot. Japon, ça klaxonne jamais. Jamais. Et quand ça klaxonne, c'est... Excusez-moi d'avoir fait ce bruit incongru et vulgaire. Ça se fait pas. Mais par exemple, la folie de Rio de Janeiro, c'est absolument, mais c'est exaltant. Quoi. Moi, je tenais plus en place quand les premières fois quand j'y suis allé, je me suis dit, c'est pas vrai, les mecs au feu, ils démarrent comme des dingues, à fond, il y avait des Fangio partout, les autobus, tout juste dans les virages, ils se couchent pas, et tout le monde conduit à une vitesse invraisemblable, à 2h, 3h du matin, mais on manque de se faire tuer 10 fois à Rio.
Comment sont classées toutes vos archives ? Est-ce que vous avez tout gardé, par exemple ? Est-ce qu'il y a chez vous ces premières prises de sonde ?
Bordel total. Terrible.
Mais est-ce que, par exemple, même si c'est le bordel total, est-ce que vous avez tout gardé ? Est-ce que, par exemple, vous êtes quasiment dans des caisses, j'en sais rien.
J'ai foutu ça dans des boîtes, oui.
D'accord.
Mais si j'avais pas rencontré des gens qui m'avaient dit « faut sortir tout ça des boîtes », peut-être bien que ça y serait resté.
Donc c'est la caverne d'Ali Baba des sons, c'est... Est-ce que vous avez déjà à l'esprit tout ce que vous avez fait ? Vous savez que ça, vous l'avez quelque part. Après, vous le trouvez, c'est un problème, mais...
Je remercie le ciel. Il y a une espèce de mémoire sonore invraisemblable. On me dit, t'as pas une vache, machin.
Je dis, une vache éternelle.
Tu vas dans la boîte, là, j'ai enregistré, à Phnom Penh, là, dans la campagne. Il y a une vache qui traverse ça. C'est incroyable. Je crois que j'ai toute la sonothèque dans la tête. Tous les sons auxquels j'ai participé. Alors, il faut dire, c'est ça, parce que j'y ai mis énormément de temps. Hein. Les prises de son, c'est pas... je sors le micro, ça, c'est rentré. Quoi. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
L'art et le design sonore, comment vous mettez tout ça ? Est-ce que... comment une captation sonore devient une œuvre d'art et l'est-elle ? Et comment intervient aussi le concept de composition là-dedans ? Est-ce que pour vous, c'est vraiment très cloisonné ? Ce sont des choses différentes ? Ou parfois, on slalome un peu entre les genres ?
J'ai bien du mal à définir ce qui est art ou ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas beaucoup. Non, je ne sais pas bien. Par exemple, moi, si je me mets d'un côté, quand je compose de la musique, donc j'ai comme tout le monde, hein, j'ai du papier à musique, machin, puis je fais des notes, hein, puis puis voilà. Et puis ça fait de la musique, et puis à l'intérieur de moi, bah, c'est ce que j'entends dans la tête qui fait ça. Donc c'est plutôt ça, c'est l'aspect inverse du son, c'est du son qui est à l'intérieur qui passe dehors. Quand je suis dans une ville, c'est du son de l'extérieur qui passe dedans. Mais finalement, c'est tout un, parce que quand on écoute, le dehors et le dedans de vous-même, c'est, tout d'un coup, c'est totalement unifié par le son. Qui sort de vous ou qui rentre en vous, ça finit par faire une sorte d'unité, une espèce d'espace voilà, qui est complètement, complètement mêlé. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est de l'art quand j'enregistre. Je dirais que c'est quand même assez analogue à la photo. C'est assez proche.
Qui est l'art, qui est considéré comme un art, d'une certaine manière, la photo.
J'ai fait un travail avec un photographe pour une entreprise. Bon, pardon de cette parenthèse. C'était une entreprise chimique. Et je leur dis, mais je faisais pour eux des conférences, des trucs comme ça sur le son. Et je leur dis, mais ça serait formidable de faire des portraits de vos usines dans le monde. Parce que, mais on croit que les usines, comme les machines sont les mêmes, elles sonnent de la même façon. Mais les gens qui servent ces machines-là apportent une vie dans les ateliers et tout ça. Je suis certain qu'on peut faire des portraits d'usines qui soient complètement différents. Et on me dit banco. Et on a fait 6 usines dans 6 pays du monde. Et j'ai dit, pour ce travail-là, on va faire ça avec un photographe. Donc il y a un photographe de l'agence Magnum, Harry Gruyert, qui est venu travailler avec moi. Et on est parti. On est parti, donc Shanghai, on a fait Chine, États-Unis, Allemagne, Espagne, etc. Et bien, le résultat final est vraiment... là, j'étais stupéfait, quoi, parce que la façon dont il a, lui, traité son visuel et la façon dont moi, j'ai traité le sonore, ça s'est complètement emboîté de façon mais absolument naturelle. Et pourtant, on partait chacun de son côté. Quand on arrivait dans l'usine, je disais « Salut, à ce soir !» et on partait chacun de son côté.
Qu'est-ce qu'on y fait en 2011 à l'unité de design sonore de l'IRCAM?
Reposez-moi la question.
Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui à l'unité de design sonore de l'IRCAM par rapport à l'évolution et aujourd'hui concrètement?
Alors, moi, à un moment donné, donc, j'ai voulu arrêter. J'avais ce bureau d'études plus le machin, ça faisait beaucoup de personnel et tout. Et tout d'un coup, je me suis dit, là, il me reste un peu moins d'années, donc j'ai envie de faire un travail beaucoup plus personnel et tout. Donc, j'ai arrêté ça et j'ai transféré le labo, puisqu'il y avait des dotations publiques. C'est toujours bête de perdre des dotations publiques. Je l'ai transféré à l'IRCAM. Et à l'IRCAM, il y a une équipe très forte en psychoacoustique, qui est, on va dire, en gros, c'est la formulation en termes psychologiques de ce que vous entendez. C'est-à-dire que c'est le son tel que vous le percevez. Le son, c'est pas juste... on ne le décrit pas que par ses qualités physiques, simplement, mais c'est celui que vous allez entendre. Et là, il y a un homme qui est très fort, que j'aime beaucoup. Et donc, à partir de là, moi, je leur ai laissé le petit capital que j'avais, et puis ils exploitent ça. Et donc, ils travaillent plus dans le champ de la psychoacoustique. Et ils font des réalisations, mais ne demandez pas lesquelles, parce que je n'ai plus suivi.
Au début, là, quand on est en retraçant un peu votre carrière, on a plutôt cité des noms de compositeurs ou de musiciens jusqu'avant les années, on va dire, 80, et ensuite on a plus parlé de villes, de bruits, d'objets. Quel mélomane vous avez été et quel mélomane vous êtes aujourd'hui par rapport à vraiment ce qu'on appelle vraiment la musique, là, pas uniquement le son? Est-ce que vous écoutez la musique de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans? Quel rapport vous avez avec la musique, enregistrée ou musique vivante?
Je crois que ça n'a pas bougé. Non, il y a des musiques qui me rentrent dedans avec la même violence. Je peux écouter ça 250 fois. Ça me rentre dedans. Je fais honte avec les personnes qui viennent avec moi au concert, parce que je pleure comme un gamin. Il n'y a rien à faire, quoi, c'est comme ça.
À quel concert vous avez pleuré, par exemple, dernièrement?
Je sais pas, moi, tout d'un coup, si quelqu'un joue particulièrement bien et tout ça, ça me rentre dedans et je ne m'en aperçois pas. Je suis transformé en petite fontaine, ridicule. Non, c'est comme ça. Voilà, je ne peux rien y faire.
Vous avez une gloutonnerie par rapport à la musique? Est-ce que, je sais pas, vous achetez beaucoup de disques, vous écoutez la radio, vous téléchargez, vous allez au concert régulièrement?
Non, je vais au concert de temps en temps quand j'ai envie. C'est toujours bien ciblé parce que j'ai envie d'entendre quelqu'un. Alors mes choix vont plus... Bon, de temps en temps, je me laisse aller à une goujaterie. Enfin, je veux dire, enfin, vous savez, les grosses musiques énormes, ça, une dixième de Mahler, où on fait le plein d'un coup, on n'en peut plus quand on sort. On a fait un gros gueuleton, mais c'est assez rare. Non, je vais plutôt dans les musiques rares, quoi. La musique baroque, c'est vrai, me passionne complètement. Parce qu'il y a une qualité de timbre, et il y a un travail individuel et collectif qui devient assez rare dans les grands ensembles. Là, il y a des vraies leçons, quoi. Et puis, bah, je reste toujours fidèle au jazz, mais mon vieux jazz à moi, quoi. Thelonious Monk, indispensable. Donnez-nous notre Thelonious Monk quotidien. Je ne peux pas m'en passer. Tous. Ouais, je les aime, oui.
Vous écoutez la musique comment ? Sur disque, sur vinyle, sur cassette, sur CD, en MP3
Non, dans mon ordi, il y a mes trucs à moi. Et puis le matin, si j'ai envie de me faire un truc, pop, je vais en chercher un.
Vous écoutez la radio de temps en temps ? Vous écoutez France Musique, par exemple ?
En voiture, mais comme j'utilise quasiment pas ma voiture, donc j'écoute pas beaucoup France Musique. Non, j'écoute pas beaucoup la radio.
Vous avez envie de quoi pour les années à venir par rapport à vos recherches personnelles?
Ben, cette expérience cette expérience de laborie, le jardin des sons et des lumières, enfin, pour moi, vraiment une ouverture extraordinaire, parce que j'ai fait des jardins en ville, des jardins urbains, donc il y avait déjà un apport de son fort dans l'environnement. La nature, j'avais jamais osé m'y confronter. Et là, quand je suis venu dans ce site qui est tout à fait étonnant, parce que il y a un grand étang, et puis il y a une colline qui dégringole, il y a la ligne de chemin de fer en bas, il y a la ville de Limoges dans le lointain, on l'entend encore. Le train, chaque fois qu'il passe, d'abord c'est magnifique les trains, j'ai une passion pour enregistrer les trains, il doit klaxonner pour passer un tunnel, donc il y a le klaxon du train. On est dans un truc qui est à la fois nature et périurbain. Et la nature, elle est pourtant très forte, quoi. Il y a les arbres, il y a les oiseaux, tout le monde y va, quoi. Les insectes, c'est comme dans la nature, quoi. Et donc, cette espèce d'hybridité, ça m'a complètement fasciné. Je me suis dit, mais là, c'est un endroit magique, il faut qu'on se fasse un jardin. Et comme ils fabriquent des porcelaines dans la région, eh ben, je me suis dit, on va travailler sur la porcelaine. Donc, c'est là où on fait des instruments de porcelaine qui sont mis en mouvement par un ruisseau qu'une paysagiste formidable nous dessine, avec des chutes d'eau. Je fais des fleurs de porcelaine, des trucs comme ça.
D'autres projets avec des institutions, des entreprises ou autres dans les mois qui viennent ?
Oui, un tramway. Ouais, un tramway.
Plus précisément.
Ben là, celui-là, il est un peu top secret. On a fait une voiture électrique là, qui était présentée au Salon de Genève. Ça, c'est toujours intéressant de faire une voiture électrique. Parce que ça dépend. Enfin, c'est donné que le son donne aussi le poids de l'objet, sa dimension urbaine et tout ça. Il reste petit, il doit rester petit, mais en même temps, il doit être entendu des voisins et tout ça. Donc, c'est une problématique qui est très complexe et très, très intéressante. Bref, donner la voix aux choses. Voilà, tiens, ça, c'est mon obsession. C'est que nous, on est doués d'une voix, dotés d'une voix. Et je suis un peu comme Marguerite Yourcenar. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle La voix des choses. Et je crois que les choses aussi peuvent avoir une voix. Voilà, elles ont une voix.
Je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. Merci beaucoup, Louis Dandry.
Merci.
Oh,
francobez.com. Rencontre par Marc Zisman.